Bonjour, dans cette première émission, nous allons évoquer la Renaissance italienne. Nous l'évoquerons sur trois émissions dans les semaines qui viennent. Donc cette Renaissance italienne s'articule en trois temps. La pré-Renaissance, 1300-1400, le Trecento, la première Renaissance, 1400-1500, le Quattrocento, et la haute Renaissance, 1500-1520-1527. Ces trois temps correspondent à une évolution de la Renaissance. On va s'inspirer de l'Antiquité et le terme de Renaissance vient de Giorgio Armani, 1511-1564, qui écrit en 1550 les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes et il va employer en 1568 le terme de Rinascita. Il emploie pour qualifier un nouvel art qui arrive après l'art du Moyen-Âge. C'est un renouveau des arts, un renouveau intellectuel, des mentalités fondées sur l'Antiquité. Et Vasari va définir ces trois âges de la Renaissance avec l'enfance, Cimabue, Giotto, le sculpteur Pisano, l'adolescence avec Masaccio, Brunelleschi et Donatello que nous allons étudier aujourd'hui, et enfin l'âge d'or de la maturité, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Cette Renaissance, c'est un nouvel art de la beauté. Il rattache cet art à l'art de l'Antiquité. Quel est le contexte historique et géographique? Au XIVe siècle, l'Europe est secouée par plusieurs épidémies, notamment la peste noire, qui va vraiment entraîner une mortalité très importante dans les pays européens et dans les grandes villes italiennes. Au début, tout vient d'Italie. Au XVe siècle, l'Italie est morcelée en différents royaumes, duchés, marquisards, et ce morcellement va entraîner des rivalités. Mais c'est surtout, bien sûr, la République de Florence qui sera l'élément phare. Cette rivalité des villes, héritée de l'Empire romain, est très importante. Ce renouveau, c'est un renouveau intellectuel, un nouvel humanisme. L'homme est placé au centre de la pensée. Au Moyen-Âge, Dieu était au centre de toute chose. Dieu est toujours présent, mais là, l'homme est au centre de la pensée. C'est un nouvel espace géographique de pensée, un nouvel espace scientifique. Et on va redécouvrir les philosophes antiques comme Protagoras au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et l'homme, je le répète, est au centre de toute chose. On va s'intéresser aux textes antiques, à l'art. Cette antiquité est pensée comme un idéal de pensée, d'intelligence. Et cet humanisme va se développer rapidement. Les dirigeants italiens vont s'entourer d'érudits humanistes, je citerai les principaux, Pétrarque, Politien, Boccace, Ficin, et surtout Jean-Pic de la Mirandole, proche de Laurent le Médicis, qui va publier en 1486 un texte fondateur, Discours de la dignité de l'homme, à savoir, façonne-toi toi-même, deviens ce que tu désires. Cette Renaissance, bien sûr, c'est aussi la découverte du monde en 1492 et la découverte de l'imprimerie. On va s'intéresser à l'art d'écrire. On redécouvre les textes de l'Antiquité et la structure en vogue, ce sera le studiolo. Le studiolo, c'est un petit bureau d'études et je vous renvoie à une peinture de Carpaccio, Venise, 1502, la vision de saint Augustin dans son studiolo. Le plus célèbre studiolo, et je vous invite à aller le voir, est celui du duc d'Urbino. C'est un studiolo avec une marqueterie en trompe-l'œil, remarquable. Et le studiolo, c'est l'affirmation, la volonté de connaître. On a parlé de foyer florentin et trois villes importantes en Italie sont rivales, Pise, Sienne, Florence. Cette rivalité, elle est économique, intellectuelle et artistique. Et cette rivalité artistique va montrer la puissance des dirigeants italiens. Nous avons donc Florence, qui est une ville de banquiers, qui s'est enrichie grâce au commerce du textile, du tissu, de la laine. Et les Médicis, par exemple, vont devenir les principaux banquiers de l'Europe. C'est une ville très attractive, beaucoup de familles nobles. Et ce qui était important, c'est qu'un tiers sont éduqués. Un tiers des femmes sont éduquées. De pouvoir, l'église et le palais de la seigneurie avec un dirigeant et 9 représentants des guildes qui sont les corporations qui regroupent les artisans et les gens de métier. L'emblème phare de Florence, c'est la cathédrale de Florence. C'est le monument phare, la Santa Maria del Fiore. C'est une église extraordinaire et on va la reconstruire pour en faire une beaucoup plus grande, beaucoup plus orgueilleuse. Et pour cela, on va créer des compétitions artistiques pour trouver le meilleur architecte talentueux pour reconstruire cette cathédrale. Il y a la présence d'un campanile déjà à côté de la cathédrale qui a été fait par Giotto, qui a été le maître d'œuvre du campanile. Le baptistère, on va l'embellir, on va le recouvrir de marbre avec trois portes principales qui sont appelées des vantaux en bronze, dont la porte sud a été commandée à Pisano et la porte nord à Ghiberti. Alors, on a parlé de Brunelleschi, 1377-1447, et Donatello, 1386-1466. Ils partent à Rome pendant 4 ans, de 1404 à 1409, pour étudier l'Antiquité qui va influencer l'architecture de la Naissance, de la Renaissance. Et effectivement, à Rome, on trouve d'imposants vestiges romains et on découvre de nouvelles statues lors de fouilles. Et ils vont découvrir les trois ordres d'architecture grecque, selon Vitruso, qui était l'architecte d'Auguste, à savoir les chapiteaux doriques, ioniques et corinthiens. Et trois monuments phares à Rome, le Colisée, le Panthéon et l'Arc de Constantin. Le Colisée, parce que c'est la superposition de plusieurs colonnes, le premier étage dorique, le deuxième ionique et le troisième corinthien. Et puis le Colisée a une forme particulière, dérivée de la forme arrondie, qui est une forme ovale. Ils observent aussi le Panthéon à Rome, construit sous Adrien, avec une coupole circulaire de 43 mètres de diamètre. Et ils vont s'intéresser, bien sûr, à l'art de Constantin, qui est une composition triomphale. Brunelleschi Filippo, il est né en Toscane en 1377, il est décédé en 1446. Il est considéré comme celui qui a retrouvé la manière antique de bâtir. C'est un fils de notaire, il reçoit une bonne éducation et en 1420, lors d'un nouveau concours à Florence pour édifier la coupole, il va remporter ce concours grâce à de nouvelles machines et à de nouveaux plans de la coupole où il va concevoir une coupole avec 8 nervures maîtresses et des nervures beaucoup plus petites et avec une coque externe, avec une coque interne. Puis en 1446, il va réaliser le concours de la lanterne qui est situé sur le dôme de la cathédrale et qui va éclairer l'intérieur de la cathédrale. Cette cathédrale va être une coupole qui sera une des plus grandes d'Italie. D'autres bâtiments très intéressants à Florence, si vous y allez, et je vous conseille de regarder sur votre ordinateur, c'est l'hôpital des Innocents à Florence, qui était à l'origine un orphelinat pour enfants. Et là, ce qui est très frappant, c'est qu'il va introduire au niveau des arcades une visualisation sa vision de l'architecture, à savoir que Brunelleschi a le goût pour les mathématiques. Et au niveau des portiques de la cour, on voit qu'il y a un module carré, à savoir que la hauteur, la largeur, la profondeur, tout ceci repose sur le carré. Il va réaliser aussi la basilique de San Lorenzo. Donc on voit qu'avec Brunelleschi, il va révolutionner complètement la sculpture au niveau de cette première Renaissance. Il va redécouvrir la perspective linéaire qui est un élément fondamental de la Renaissance. En d'autres termes, on va passer d'une architecture de deux plans à trois plans. Et c'est beaucoup plus tard Alberti qui va théoriser cette technique. Et maintenant, nous allons parler d'un ami de Brunelleschi qui est Donatello. Donatello, 1386-1466, c'est le grand sculpteur de la Renaissance. C'est un apprenti de Ghiberti et il va séjourner à Rome avec Brunelleschi et ils vont représenter tous les deux le monde tel qu'il est. L'œuvre maîtresse de Donatello, le chef-d'œuvre, c'est son Davis fait vers 1440. Le David, c'est un bronze, une ronde bosse, c'est une statue de 1,58 m qui a été faite une commande de Comte de Médicis pour la cour du palais de Médicis. David, vous le savez, c'est un jeune berger appelé à la cour du roi Saul pour ses talents de musicien dont je vous renvoie au récit biblique. C'est une statue en pied, un pied posé sur la tête de Goliath et ce nu qui est le premier nu de la Renaissance depuis l'Antiquité. Il porte un chapeau extraordinaire qu'on appelle le pétase, qui était le chapeau porté par les paysans et les voyageurs en Grèce. Et à ses pieds, on voit une couronne de laurier, chapeau de triomphe. Et comme le voulait Combes, ce David, c'est une allégorie sur Florence. C'est une première statue de grande taille depuis l'Antiquité. L'effet remarquable, c'est la circularité. Imaginez ce premier nu placé dans la cour du palais de Médicis, dont tout le monde, les clients, pouvaient rentrer, les nobles pouvaient voir cette statue. C'est une idéalisation du beau, érotisation des corps avec une grande sensualité singulière dans le corps, synonyme de beauté. Son visage est d'une grande fragilité avec régularité des traits, expression humble, haute valeur morale, et puis le contraste avec le côté dérisoire du corps de l'adolescent et le tragique de la situation. Donc c'est une œuvre étrange, particulière. Cette thématique antique très importante, c'est un nu héroïque. Ce nu, c'est le regard de l'Antiquité, le triomphe du petit contre le grand. Et on se sert de la vertu des héros antiques pour glorifier ce héros païen, avec cette position de contrapposto, avec la ligne des hanches et la ligne des épaules. Sur le plan iconographique, c'est une lecture biblique, mais aussi une autre lecture iconographique, lecture de ce que veut représenter et comme voulait une allégorie de la ville de Florence. C'est une œuvre novatrice. Voilà, notre première émission se termine et je vous invite à, si vous avez un moment de tranquillité, de solitude, de revenir sur la statue de David et préparer l'émission suivante en allant voir chez Donatello la statue équestre de Guatemalata et surtout la Marie-Madeleine qui est une œuvre en bois extraordinaire de Donatello et préparer notre prochaine rencontre, qui sera un petit peu difficile, l'œuvre de la Trinité, qui est de Masaccio, qui est une œuvre très importante à Florence, dans la chapelle de l'église Santa Maria de la Novella.